Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le terrain le sportif.
Il n'y a personne de safe ici dans la chambre. Parce que c'est pas un camp de vacances ici.
Quand tu viens à Montréal jouer devant 700, on te dit que tu viens jouer à l'Université de Montréal. You're gonna compete with the best against the best tous les jours.
Gagner beaucoup de trophées. Merci à Ibra Kadabra.
Moi, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà.
So I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
I can't really hear what Jeremy says because I got my two Stanley Cup rings plug in my ear.
Le terrain le sportif. Terrain. Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue au terrain sportif tous les lundis 10h30 midi sur les ondes de CSM, le 89,3 FM, la plus grande radio universitaire francophone au monde, mesdames et messieurs. Également en rediffusion les lundis soirs 20h30, 22h sur les ondes de CFAC, le 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke en Estrie. Wissem Bensta au microphone avec vous pour cette édition du 5 août 2024, édition qui sera un peu plus courte que les autres puisqu'il y a un peu moins d'action du côté de nos équipes sportives là, qui se sont déroulées la semaine dernière, principalement le week-end dernier. L'Alliance ne jouait pas, l'Alliance de Montréal. On n'a pas de baseball de la Ligue majeure. Le CF Montréal n'était également pas en action le week-end dernier. Mais on va commencer d'ailleurs à parler avec du CF Montréal dans quelques minutes. Puis également, on va parler des Jeux olympiques puisque c'est la saison pour en parler. Puis une fois tous les 4 ans, je veux bien. Il y a eu des médailles d'or surprenantes qui se sont posées. Notamment, j'ai réalisé en fait que pour jouer aux Jeux olympiques, je pensais que pour représenter un pays, tu devais être au moins né dans ce pays-là et avoir grandi dans ce pays-là. Et ce n'est pas le cas. Donc j'ai été un peu surpris de ça. Je sais qu'au soccer, c'est un peu différent avec les joueurs qui... Par exemple, Iñaki Williams, qui est né en Espagne, qui a grandi en Espagne, qui a fait toute sa vie en Espagne, puis qui joue avec le Ghana parce qu'il a des origines du Ghana. Mais je pensais qu'aux Jeux olympiques, ce genre de situation était non autorisé. Puis je me suis rendu compte que oui, en fait. Et donc, ça m'a surpris avec la petite médaille d'or d'une gymnaste. Donc, voilà, on va parler de tout ça dans l'émission. Également, CF Montréal, on va en parler, on commence avec ça. Le championnat de la CBL, on va en glisser quelques lignes, puisque ça se passe vendredi et dimanche de cette semaine. Actualité internationale dans le monde du soccer. Puis on a les grands championnats de soccer qui vont très bientôt recommencer. Puis on va parler de la League's Cup, qui est la compétition qui se joue entre les clubs canadiens, mexicains et américains des États-Unis. On parle des trois, des deux divisions, là, meilleures divisions de chaque pays. La Liga MX au Mexique et la MLS Major League Soccer aux États-Unis et au Canada. Puisqu'il y a beaucoup de clubs mexicains, puis il y a énormément de groupes, il y a énormément d'équipes. C'est un très beau tournoi. Et le CF Montréal, est-ce qu'on sera encore dans ce tournoi-là? On va en parler, puisque notre sort dépendait hier d'une équipe de Orlando City. Pour que le CF Montréal se qualifie pour le prochain tour, il fallait que Orlando batte ou fasse match nul contre San Luis, tout simplement. Il n'y avait pas d'autre façon. Si San Luis gagnait en temps réglementaire, le CF Montréal était éliminé. Et pour recevoir un match à domicile dans cette merveilleuse compétition, pour un match de coupe, donc à élimination directe, juste un petit match, eh bien il fallait qu'en plus que San Luis ne gagne pas en temps réglementaire qui est dans notre groupe, il fallait que Cruz Azul, l'équipe mexicaine, très bonne équipe avec un très bon effectif, gagne du côté de Philadelphia Union. Est-ce que ça s'est passé? On va en parler dans quelques minutes. Mais pour commencer, je veux parler du match qui s'est déroulé du CF Montréal mardi soir. C'était une très belle ambiance au Stade Saputo. J'en avais déjà glissé un mot. J'avais dit que San Luis, ça n'était pas la meilleure équipe là, que le CF Montréal pouvait affronter en termes d'ambiance côté mexicain. Il y avait quelques Mexicains qui sont venus pour supporter l'équipe de San Luis. Même certains Mexicains avec le chandail de San Luis. Mais ça n'avait rien à voir avec Pumas. Comme c'était le cas là, de ça il y a à peu près un an, jour pour jour, presque. Et le CF Montréal a très bien commencer ce match. Ça a été un match dans lequel il y a eu 5 buts, tout simplement, avec des buts pour notre équipe de Mathias Cocaro, de Tom Pierce et également un troisième but pour Ibrahim Sounoussi. Et puis là, le nouveau venu Tom Pierce a connu tout un match avec une passe décisive sur un très beau centre, également un tir petit filet à l'extérieur de la surface, une excellente frappe. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un beau but comme ça à rater là, de l'extérieur de la surface côté sur CF Montréal. Donc c'était très plaisant à voir. C'est quelqu'un qui est très bon offensivement, qui a bien défendu également. Donc félicitations à lui. Puis on a besoin de ce type de joueur du côté du CF Montréal. Puis on espère qu'il va rester un petit bout. Hein. On espère que, je sais pas, que s'il reste, qu'il puisse rester longtemps. Puis que s'il quitte, qu'on puisse avoir quelque chose pour en monnaie d'échange pour l'ami Tom Pierce qui joue avec le numéro 46. Et également, l'autre piston à droite, c'était David Bougage. Lui également qui est un nouveau venu avec le CF Montréal, là, le Polonais qui jouait du côté là, du Lechia, en Ligue polonaise. C'était la première division polonaise. Puis le Lechia Varsovie, si je ne me trompe pas, c'est l'équipe championne là, de l'année dernière. Donc, c'est pas n'importe qui débarque côté CF Montréal. David Bougage, donc piston à droite, défenseur latéral droite également, si on veut. On peut l'appeler de plusieurs façons, l'ami Bougage. Donc, avec ça, avec cette équipe-là, peut-être qu'on va être en mesure de faire quelque chose pour la MLS. Peut-être aller gagner quelques matchs de séries éliminatoires, déjà se qualifier pour les séries éliminatoires dans la meilleure division d'Amérique du Nord de soccer. Je parle bien sûr ici de Canada et Mexique. Mais du côté de la Leagues Cup, cette compétition qui dure longtemps, qui tarde, qui est une très belle compétition à voir. Malheureusement, pour nous à Montréal, l'autre équipe la plus près qu'on peut aller voir, c'est le New England Revolution. C'est à 5h30 de route. Sinon, Toronto, c'est à 6. New York, c'est à 6. Donc, je pensais à ça la dernière fois pour aller voir des matchs, demander des accréditations, aller partager des expériences avec vous, chers auditeurs, chères auditrices. Il n'y a pas trop d'options. Hein. On n'a pas une équipe à 1 heure ou à 2 heures de route. Là. Par exemple, si tu habites à New York City, tu as déjà 2 équipes dans la grosse pomme, dans The Big Apple. Également, à côté de ça, tu as l'équipe de Philadelphie qui n'est pas trop loin. Tu as Boston qui n'est pas super loin. Tu as DC qui n'est pas super loin. Tu as Charlotte qui n'est pas super loin. Tu as Philadelphie qui se fait quand même bien. Tout ça à des distances inférieures que nous, avec nos 6 heures côté là, Montréal, Québec, Canada, puisqu'on est dans un très grand pays et avec une densité de population très faible. Donc, je pensais à ça récemment. En fait, on va changer de sujet, on va revenir à nos moutons. Pour que le CF Montréal se qualifie, bien, il fallait qu'hier, il fallait qu'hier, que le Orlando City ne perde pas en temps régulier contre San Luis. Et pour recevoir un autre match à la maison, il fallait que ce scénario se passe en plus de avoir une victoire de Cruz Azul du côté de Philadelphie. Est-ce que ça, c'est arrivé ou c'est pas arrivé? On va en parler tout à l'heure. On a après les entrevues d'après-match. Puis juste pour terminer sur ce match-là, on a eu en entrevue après ça Frank Volley. Frank Volley, c'est un joueur africain qui joue du côté de la Ligue mexicaine et il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire. Il y en a eu quelques-uns dans la Ligue mexicaine, notamment Kalusha, je crois qu'il venait de la Zambie, si je ne m'abuse, la Zambie ou le Zimbabwe, je ne me rappelle plus lequel des deux. Un joueur légendaire du club América. Et lui, Frank Volley, eh bien, il vient de la Côte d'Ivoire. Il est né là-bas à Yamoussoukro et il joue avec Atlético San Luis, donc il vient de débarquer là-bas en 2024. Il a joué longtemps avec les Portland Timbers, il a joué en Hongrie, et puis il a un match à son actif avec la Côte d'Ivoire, donc on pourra dire au moins pour lui qu'il a représenté son pays avec l'équipe nationale au soccer. Et donc, il n'a pas beaucoup joué avec Atlético San Luis, mais il était là, il ne parle pas espagnol. Et c'est rare ça de voir des joueurs qui jouent dans un championnat, surtout un championnat latino, là, on va se le dire, comme tout le continent américain, et qui ne parle pas espagnol. Généralement, c'est le contraire. On a des coachs souvent argentins qui jouent, qui entraînent des équipes européennes en Angleterre, en France et ailleurs, et qui ne parlent pas du tout la langue du pays, qui ne l'apprennent pas, notamment anglais, français. On pense à Bielsa, on pense également à Bielsa qui n'a pas appris ni le français ni l'anglais quand il a travaillé du côté de l'Olympique de Marseille et de Leeds United. Pochettino également, du côté de Paris, n'a pas appris le français, ce que je trouve étonnant, parce que ce sont quand même des langues latines, des langues similaires, donc un peu petit effort aurait été très bienvenu pour les fans du PSG, de l'OM et de Leeds United, respectivement. Et donc, Frank Bolli, eh bien, lui, c'est un des rares qui joue dans un pays latino, dans un pays qui parle espagnol et qui ne parle pas la langue, mais il vient de débarquer là-bas. Donc, on va lui donner une petite chance. Je suis certain qu'il va l'apprendre éventuellement. Il communique en anglais avec cette équipe de l'Atlético San Luis. Et d'ailleurs, lui, il a réduit le score là, pour faire 2 buts à 1 à la 70e minute sur un penalty. Les deux buts que le CF Montréal a accordés ont été sur 2 pénalties, notamment le deuxième à la 80, à la 103e minute. Donc, on était dans le temps additionnel sur un penalty converti par Jürgen Damm sur de la mollesse en défense côté CF Montréal. Là, ça aurait pu coûter la qualification éventuelle, on va en parler dans quelques instants, pour le CF. Et malgré ça, on a été capable de tenir le fort, mais il aurait fallu se concentrer un peu plus là, côté CF Montréal. Et on s'entend que le deuxième penalty, il a été rechecké par la VAR, Video Assistant Referee, et c'est comme ça que le deuxième penalty pour San Luis a été décerné. C'était une faute qui pouvait sembler claire, mais en même temps, sur les reprises vidéo, on ne voit pas clairement que Waterman touche à Jürgen Damm. C'était à l'auteur là, du tibia, mais l'arbitre en a décidé autrement, et puis il a donné le penalty. Pour San Luis. Beaucoup de cartons jaunes dans ce match-là, quelques-uns, donc Chouanière pour perte de temps, 93e minute, Corbeau, 87e minute, Bonatini, 87e minute, donc ça a été une fin de match quand même avec beaucoup de cartons, mais généralement ça a été relativement fair play ce match-là, même si beaucoup de fautes, mais un arbitre qui a laissé jouer, qui par moments semblait peut-être trop laissé jouer, mais en général, ça l'a bien été pour le CF Montréal. Maintenant, on va y aller en entrevue d'après-match avec notamment le coach, M. Courtois, l'assistant coach de San Luis, puisque le coach officiel a été expulsé avec un carton rouge. Et également, on va écouter à Frank Bolli et à Jürgen Damm. Donc, on va voir de l'espagnol et du français pour vous, chers auditeurs, chers auditrices, côté CSM, côté CFAC. On s'en va en musique avec nos nouveautés francophones de la semaine et on revient après ceci. Bonne écoute. De retour sur les ondes de CSM et de CFAC, vous écoutez l'émission Le Terrain Sportif, édition du 5 août 2024. Wissem Bensta au micro avec vous pour encore environ une demi-heure, 40 minutes. On va continuer à parler de sport et on va continuer de parler du CF Montréal, mais avant ça, on va vous présenter les trois artistes dans l'ordre. C'était tout d'abord Sherpa de Angine de Poitrine, côté palmarès CSM. Ensuite, Les Nouveaux Infinis, tirés de l'album Les Nouveaux Infinis de Nicolet. Et Pomme Z de Viceroy, tiré de l'album Pour les Tristes et Gentils Labels Uniforce, Label Uniforce. Voilà tout du contenu francophone canadien. Donc, on a nos trois nouveautés francophones de la semaine. Juste comme ça, juste d'être là dans les premiers 25 minutes de l'émission. C'est pour vous. C'est tout frais. Ça sort du four pour le terrain sportif sur les ondes de CSM et de CFAC. Maintenant, on va écouter en entrevue d'après-match les joueurs concernés, notamment l'entraîneur-chef Laurent Courtois, Frank Bolli, attaquant du Atlético San Luis, et également l'entraîneur assistant Jordi Guerrero de l'Atlético San Luis, puisque Dominic Torrent, l'entraîneur-chef espagnol, s'est fait renvoyer du match là, avec un carton rouge, qu'on n'a pas vu durant le match, mais apparemment, c'est ce qui s'est passé. Et puis, si je me souviens bien, là, quand j'étais sur SofaScore, qui est le site que j'utilise là, pour les références, pour les résultats, etc., etc., je n'avais pas aperçu son nom. Il me semble qu'il n'y avait pas eu de carton rouge du côté de sofascore.com pour l'entraîneur-chef de l'Atlético San Luis, Dominic Torrent. Lui qui joue, bien entendu, qui entraîne l'Atlético San Luis. C'est un des deux Espagnols qui entraîne en Liga MX. L'autre, c'est du côté de Guadalajara avec Atlas de Guadalajara. Et quand on regarde ici, on est en train de vérifier ça, là. Non, c'est ça, aucune indication sur le site de SofaScore que l'entraîneur a été expulsé. Donc, c'est intéressant. On ne saura jamais qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais bref, il n'était pas en conférence de presse pour San Luis. Donc, on va commencer avec Frank Bolli. Ensuite, on va écouter l'entraîneur-chef du San Luis. Et après ça, on va y aller avec Laurent Courtois, l'entraîneur-chef du CF Montréal.
Donc, bonsoir, Frank. Est-ce que vous êtes satisfait de votre performance en tant qu'équipe ce soir ici à Montréal?
Bonsoir. Pas du tout. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. On a eu des occasions, eux aussi, évidemment. Mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. On a eu vraiment, surtout en deuxième mi-temps, pas mal d'occasions et je pense qu'on aurait pu les concrétiser, mais ouais, on part avec un petit goût amer quand même.
Est-ce que vous vous attendiez à ce que l'équipe de Montréal soit autant offensive ce soir avec beaucoup d'attaques?
Ouais, j'ai déjà joué moi quand j'étais à Partouin et je sais que offensivement c'est une équipe qui est très rapide et qui se crée beaucoup d'occasions, donc on savait déjà. Après, c'est le foot, hein. Il peut se passer beaucoup de choses et bah, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Ils avaient vraiment beaucoup d'attaques contre nous, beaucoup de cases aussi, franchement. Et ouais, c'était un match équilibré, quoi, je pense déjà.
Et dernière question, est-ce que vous y croyez contre Orlando, puisque vous allez devoir absolument les battre pour espérer vous qualifier?
Toujours, sinon je pourrais foot. Franchement, toujours, on espère, peu importe, hein, que ce soit le Barça ou le Madrid, peu importe. De toute façon, on va pour gagner, quoi. En tout cas, on a ça dans la tête.
Ok, mais merci beaucoup et bonne chance pour
la
suite.
Merci.
Gracias. Buenas noches, señor. ¿Le sorprendió el ataque ofensivo del CF Montreal esa noche aquí?
No sabíamos exactamente que a ellos les gusta correr, se ponen por delante del marcador y al final nosotros tenemos que ir para arriba y ellos pueden correr. La verdad es que las contras es donde están marcando más goles y lo sabíamos perfectamente, pero los partidos te llevan a eso. Si no marcas tú y marcan ellos, pues al final tienes que dejar espacios para ir a atacar. O sea, no nos ha sorprendido. Creo que el partido, si nosotros hubiésemos estado un poco más acertados arriba, el partido hubiese sido distinto.
Y segunda pregunta, el técnico de aquí dijo que ustedes tienen una filosofía de atacar y de jugar al fútbol y no de cerrarse atrás. ¿Confirma usted que pues, es su filosofía con el San Luis de jugar ofensivo y de jugar a la pelota?
Sí, sí. Jugar a la pelota, intentar marcar goles. Y de hecho, si tú ves las estadísticas, al final hemos chutado más que ellos, o sea, que hemos tenido más valor que ellos y eso es lo que intentamos implementar y que poco a poco vamos haciendo y vamos mejorando semana a semana.
Gracias. Bonsoir, coach. Est-ce que ce soir vous diriez que c'est un de vos meilleurs matchs en termes de football offensif, selon vous?
Moi, c'était correct. Vraiment, il faut deux équipes pour jouer. Quand il y a une équipe qui vient juste pour défendre et ne cherche pas à gagner le ballon, c'est difficile de bien jouer. Donc, aujourd'hui, on avait une équipe qui voulait vraiment aussi attraper le ballon très haut et nous, ça nous donne des opportunités avec un peu de qualité et de lucidité. Ils ont fait des belles choses.
Donc voilà, l'entraîneur assistant de l'Atlético San Luis, lui qui a mentionné que bon, il n'était pas du tout surpris du côté offensif du CF Montréal puisqu'il les avait étudiés et puis qu'il a mentionné qu'il y a eu beaucoup de contre-attaques dangereuses pour le CF Montréal. Quant à Laurent Courtois, lui, il a mentionné que bon, j'ai posé la question si c'était un des meilleurs matchs offensifs qu'il a vu de son équipe, puis il a mentionné à juste titre que ça prend deux équipes pour avoir ce type de football-là. Souvent, surtout quand on n'est pas le Real Madrid ou le FC Barcelone de Guardiola, on s'entend là, que si une équipe vient au stade puis qu'ils veulent jouer seulement en arrière et jouer très bas et garder la balle et la dégager et faire bloc bas, c'est plus difficile pour une équipe comme le CF Montréal de produire du jeu, même en contre-attaque d'ailleurs. Et ça n'a pas été le cas contre l'Atlético San Luis. L'Atlético San Luis a cherché à marquer, ils ont joué quand même offensivement, mais le CF Montréal était trop fort pour eux lors de ce match-là et surtout le CF Montréal a profité des opportunités qu'ils ont eues pour remporter le match 3-2 du côté du Stade Saputo. Et pour ce match, environ 17 000 spectateurs, c'est à mentionner. Et quant à Frank Bolli, ben, très gentil. Là, j'ai déjà parlé il y a quelques instants de lui. Il a déjà joué avec Portland avant, il connaissait l'équipe. Lui, ce qu'il dit côté son équipe, c'est qu'ils veulent absolument aller loin dans cette compétition-là. On va en parler dans quelques minutes. C'est sûr qu'il n'allait pas dire le contraire. Là. Mais pour une équipe comme Atlético San Luis, c'est une de ces équipes qui, Selon mon expérience du foot, c'est une équipe qui n'a jamais remporté un titre de champion mexicain. Ils ont déjà remporté un titre dans la deuxième division. C'est une équipe qui est là pour donner un peu de joie aux gens qui vivent là-bas, à San Luis Potosí. Dans l'État, je crois qu'il s'appelle du même nom, San Luis Potosí. Et voilà, mais c'est pas une équipe qui va aspirer à gagner la Leagues Cup et surtout moins, encore moins à gagner là, le championnat mexicain. Il est super gentil d'ailleurs, Frank Bolli. J'étais pas loin de lui demander s'il n'y avait pas un petit maillot pour moi, un petit chandail avec un petit autographe ou une photo. Mais quand on reçoit notre passe média d'accréditation, c'est écrit en arrière, noir sur blanc. Le journaliste ou la personne accréditée ne peut pas, sous aucune condition, demander, se servir de son accréditation pour demander une photo avec un tel ou un tel joueur ou demander un chandail. Bon, ça, c'est dommage, mais c'est ça. En même temps, il faut bien protéger les joueurs, là, parce que sinon, si les médias aussi, on venait à gosser puis à demander des autographes puis des chandails aux athlètes, ben, ils seraient probablement tannés, là, déjà qu'ils se font assez demander, donc c'est une règle valable. Ceci dit, par contre, pour des joueurs un peu moins connus, ça pourrait être intéressant des fois peut-être de modifier la politique, mais tant qu'elle ne sera pas modifiée, je respecterai les conditions qui sont écrites sur les passes d'accréditation. Donc voilà. Je n'ai jamais, avec tous les matchs que j'ai faits, j'ai jamais reçu un maillot d'un joueur. Vous savez, des fois, les joueurs, à la fin du match, ils enlèvent leur chandail puis ils jettent à des fans. C'est déjà passé pas loin, mais c'est jamais arrivé. Alors que dans mon livre, à moi, je me dis, je sais pas, à moins que le joueur veuille garder son maillot pour l'échanger avec un joueur d'une autre équipe, puisque c'est quand même un souvenir pour eux, ce qui est quand même, ça va de soi, là. C'est quelque chose qui est tout à fait respectable. Moi, je me dis tout le temps que si j'étais joueur de soccer professionnel, à moins de jouer pour un club qui n'a pas les moyens de payer un nouveau chandail à tous les matchs, ce qui n'est pas le cas, je crois, en MLS, moi, j'irais, puis j'enlèverais mon chandail, puis je le donnerais à un fan à tous les matchs, tout simplement. Il y en a qui le font, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors que moi, je dis, je sais pas, ils devraient tous le faire, mais peut-être qu'ils ont des restrictions. Pas mal sûr qu'ils ont des types de restrictions là, par rapport au chandail, parce que sinon, je pense qu'il y en a pas mal plus qui le feraient. Donc voilà, ça conclut la première partie sur le CF Montréal. Maintenant, on va parler de ce qui s'est passé hier et surtout de la prochaine date du prochain match du CF Montréal. De retour sur les ondes de CSM et de CFAQ, vous écoutez l'émission Le Terrain Sportif, édition du 5 août 2024. J'espère que vous allez bien. On vient entendre nos deux nouveautés francophones, deux autres nouveautés francophones, mais doucement de Minuit Phosphène et également Les Olympiques de DVTR, donc une chanson qui a été, bien entendu, sortie et released, comme on dit, pour parler des Olympiques un peu, hein, pour critiquer les Jeux Olympiques, mais bon, chacun a son opinion, fait que c'est bien correct comme ça. Donc maintenant, on va y aller, on va finir la boucle avec le CF Montréal. On a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour le CF Montréal. La bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que le CF Montréal va pouvoir jouer les 16e de finale de la Leagues Cup. Contrairement à l'année dernière où est-ce qu'on avait accueilli les deux matchs à domicile et on s'était fait sortir, on avait terminé dernier du groupe, qui était vraiment pathétique, là, il faut se le dire. Eh bien là, dans ce cas-ci, on est qualifié pour les 16e de finale et là, on va jouer contre l'équipe de Philadelphia Union, tout simplement, puisque Philadelphie a fait match nul contre Cruz Azul. Ça se passait côté domicile du stade de Philadelphie, là, le Philadelphia Union Stadium du côté de Chester. Et faire mentionner là-dedans, les fans de Cruz Azul, les Mexicains, comportaient à peu près 90% là, de la foule dans le stade. Faut dire que c'était un match aussi le dimanche soir, donc peut-être qu'il y avait moins de monde de Philadelphie qui était vraiment intéressé. Puis les Mexicains de Cruz Azul, là, ils voulaient voir leur équipe, parce qu'on le sait, il y a beaucoup de Mexicains aux États-Unis. Et donc, pour eux, c'est une bonne occasion là, de voir leur équipe pour un match officiel et non pas des petits matchs amicaux là, qui servent à rien du côté du Texas de temps en temps avant la reprise du championnat là, mexicain. Et malheureusement pour le CF Montréal, eh bien, le CF Montréal pouvait recevoir Cruz Azul à domicile si seulement Cruz Azul, comme je l'ai dit tout à l'heure, gagnait du côté de Philadelphie. Ils menaient 1-0 pendant presque tout le match. Ils ont dominé le match de A à Z. Mais à la fin du temps réglementaire, Philadelphie, dans les dernières minutes de jeu, là, ils ont égalisé. Puis après ça, Cruz Azul l'a emporté au tir au but, mais ça change absolument rien pour le CF Montréal. Pour Cruz Azul, ça fait en sorte qu'ils vont se qualifier, oui, c'est certain. Mais je suis très déçu de la prestation et de l'attitude des joueurs de Cruz Azul parce qu'à cause de leur nonchalance, notamment sur le but égalisateur de Philadelphie, une catastrophe défensivement, eh bien, on n'aura pas l'opportunité d'avoir une autre fête côté Stade Saputo contre un club mexicain de renommée, là, un des plus populaires. C'est pas América, c'est pas Chivas, c'est pas Pumas, mais c'est tout juste après, là. Cruz Azul au Mexique, c'est très connu. Et de l'autre côté, eh bien, Orlando a fait son travail pour s'assurer que le CF Montréal se qualifie pour le prochain tour en faisant match nul à domicile contre San Luis. D'ailleurs, San Luis qui a joué à 11 contre 10 l'essentiel du match. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas été capables de remporter le match. Ils ont perdu au tir au but. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est une des rares fois dans le soccer international qu'on va voir une séance de tir au but et qu'une équipe a absolument rien à jouer dans une compétition officielle. Puisque San Luis, il devait gagner en temps réglementaire pour espérer dépasser le CF Montréal au classement. Les autres matchs hier, les autres résultats, Vancouver-Tijuana 3-1. Santos l'emporte contre Atlanta United au tir au but. San Luis Juarez 1-1. Toronto FC qui l'emporte 2-1 contre Pachuca. Et au moment où j'enregistrais l'émission, bien Guadalajara et les Galaxy c'était 1-1 et Seattle Sounders Necaxa 1-0 pour Seattle. Maintenant, qu'est-ce que ça donne pour les prochains matchs? On a beaucoup là, de matchs qui sont déjà setés. Pas tous, mais on en a plusieurs. Donc, Pumas contre Vancouver, ça va se passer du côté du stade des Whitecaps, ils sont chanceux. Pumas qui va retourner au Canada pour une deuxième année de suite. Los Angeles FC, Austin FC. CF Montréal, Philadelphie. Cruz Azul, Orlando, du côté d'Orlando. Tigres, Pachuca. Malheureusement, ça ne va pas se passer du côté de Montréal. J'attends de voir où est-ce que ça va se passer. Là, peut-être du côté de Toronto. Parce que Pachuca était dans le groupe de Toronto. Donc, ça reste à voir. Quand ces deux équipes mexicaines qui s'affrontent, comme le tournoi se passe du côté là, des États-Unis et du Canada, eh bien, il faut trouver un endroit pour que ces deux équipes-là puissent jouer. Et Toronto FC qui va jouer contre l'Inter de Miami, donc sans Lionel Messi qui est toujours blessé, ça va de soi. Donc Toronto FC qui ont quand même terminé le premier de leur groupe devant Pachuca et devant les Red Bulls. Les Tigres de Monterrey, ils ont terminé premier de leur groupe également avec 6 points. Donc le groupe de l'Est 1 n'est pas terminé. Les groupes qui sont terminés, là, ceux qui ont remporté leur groupe, Toronto FC, Tigres de Monterrey, Orlando, Philadelphie, DC United, Austin, Portland Timbers, Vancouver Whitecaps. Et donc toutes les équipes canadiennes sont qualifiées pour le prochain tour. Maintenant, le CF Montréal, si jamais, je ne vais pas dire par miracle, parce que c'est très possible, si jamais il remporte le match contre Philadelphie, le Philadelphia Union, ils vont jouer contre le gagnant de Santos Laguna. Et Santos Laguna et... Je suis en train de regarder ça, là, j'ai un petit... Ouais. Santos Laguna et, à l'heure actuelle, soit Cincinnati ou New York City FC, qui vont être une des deux équipes qui vont terminer première dans la conférence de l'Est 1, le groupe Est 1. Et donc, si on bat Philadelphie et que Santos l'emporte contre une de ces deux équipes-là, eh bien, on aurait un match de huitième de finale du côté du stade Saputo. Mais mis à part ça, ça va être compliqué d'avoir un autre match à domicile dans notre merveilleux stade à cause de notre performance, il faut le dire, contre Orlando qui a été très mauvaise. On s'est repris contre San Luis après. Mais à cause beaucoup, dimanche, le 4 août, de la prestation minable de Cruz Azul en fin de match qui avait l'opportunité de mettre un deuxième, troisième but. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont payé le prix. Et puis, ils sont qualifiés avec la petite porte. Là, ils vont jouer du côté de Orlando City. Alors que pour eux, ça ne change pas grand-chose. Honnêtement, ils sont qualifiés. Jouer contre Orlando ou contre Montréal, ça ne change rien. Mais c'est dommage pour les gens de Montréal qui manquent une très belle fête là, recevoir une équipe mexicaine de qualité. Eh bien, ça ne sera pas le cas. Donc, d'autres matchs ce soir dans la Leagues Cup. Cincinnati-New York, c'est à 8h. Toluca Sporting Kansas City à 9h. Houston Dynamo contre Real Salt Lake à 9h. Ça, je ne sais pas, il y a combien de personnes au Québec qui vont regarder ça, là, à part peut-être les parieurs. Léon contre du Mexique contre Colorado, ça c'est à 9h. Puis après ça, là, il va rester un petit match tout seul, le rejet, le dernier. Eh bien, c'est New England qui va jouer contre Nashville, puisqu'ils n'ont pas terminé là leur groupe. C'est les deux dernières équipes qui restent. Et puis Columbus et puis America qui sont les deux équipes championnes de la MLS et de la Ligue mexicaine respectivement. Eh bien, ils ont un match, un tour gratuit, donc ils n'ont pas besoin de faire la phase de groupe. Donc, ils vont commencer directement là avec les 16e de finale. Donc voilà, c'était le petit recap pour notre MLS et notre Ligue mexicaine. Malheureusement, le CF Montréal n'aura pas d'autres matchs à domicile, mais heureusement, ils sont encore dans la compétition et qui sait, peut-être une petite surprise contre nos amis de Philadelphia Union. On s'arrête un petit moment et on revient après ceci. De retour sur les ondes de CSM et de CFAQ, vous écoutez Le Terrain Sportif. Donc, on vient d'entendre quatre chansons back-à-back. C'était Junior avec la chanson Méditerranée, Holden, Madrid, Jazz, Tumbao, Ting et Étirer la fin. Quatre chansons, encore une fois, des nouveautés francophones pour vous là, du côté de CSM et de CFAQ. On est là, Terrain Sportif, tous les lundis, 10h30 midi. Sur les ondes de CSM et le lundi soir en rediffusion sur les ondes de CFAQ dans la merveilleuse ville de Sherbrooke, 8h, 9h30. Donc là, on va parler un peu des Jeux olympiques. Notre équipe nationale canadienne, après son très beau parcours, avoir gagné les trois matchs, eh bien, elles se sont inclinées au tir au but, malheureusement, contre l'équipe d'Allemagne. On le sait, l'équipe d'Allemagne au soccer féminin, c'est quand même bon. Et ça fait, c'est triste quand même pour les femmes du Canada après ce beau parcours, après tout ce qui s'est passé avec la coach qui a été renvoyée, de perdre comme ça encore de finale. Mais ça fait partie de la vie. Elles ont perdu au tir au but, là, 4 tirs à 2. Et dans le match, ça s'est terminé là, 0 à 0. C'est Adriana Leon et Ashley Lawrence, les deux Canadiennes qui ont raté. Et pour l'Allemagne, c'était Sydney Lohmann qui a raté. Les États-Unis ont battu le Japon 1 à 0. Ça s'est joué ça en prolongation là, après le temps additionnel à la 105e minute avec Trinity Rodman pour faire 1 à 0. À part de ça, ben, l'Espagne contre la Colombie. La Colombie, écoutez, il menait 2 à 0. Avec des buts de Ramirez et Santos. Et à la 79e minute, Hermoso fait 2-1. Et Paredes, 90e minute plus 7, faisait 2-2. Donc vraiment, là, c'est une défaite crève-cœur pour les Colombiennes. Liana Salazar et Catalina Ousmane ont raté leur tir au but. Elles ont perdu, au tir au but. Et la France, qui perd contre le Brésil à domicile dans ses Jeux olympiques, avec un but là, de Portillo, la 82e minute. Il y avait Sakina Karchaoui, qui a raté un tir au but, un pénalty à la 16e minute. Donc malheureusement pour l'équipe de France et pour Hervé Renard, ancien entraîneur en passant là, de la Zambie, du Maroc, de l'Arabie Saoudite, eh bien, elles sont éliminées. L'équipe de France des Jeux olympiques féminins. D'ailleurs, Hervé Renard, quand on y pense, là, avec le Maroc qui n'a pas passé le premier tour en Coupe du Monde, là, avec la France féminine, il ne passe pas les quarts de finale des Jeux olympiques. Avec l'Arabie saoudite, il ne passe pas le premier tour de la Coupe du Monde, alors que, on s'entend, il avait quand même gagné contre l'adversaire le plus difficile du groupe et de loin, l'Argentine championne du monde. Et après ça, contre la Pologne et contre le Mexique, eh bien, ils ont fait caca-culotte, malheureusement. Donc, j'aime beaucoup cet entraîneur, mais force est de constater qu'il y a eu des résultats exceptionnels en Afrique, notamment avec la Zambie, champion d'Afrique. Mais côté équipe nationale, France, Pays-Bas, France, Arabie Saoudite, Maroc, c'est plus ou moins ça, malheureusement, malgré qu'il a fait des belles choses, là, mais on n'a pas... On aimerait ça avoir un peu plus de trophées là, avec les équipes que M. Renard a entraînées. Même si, avec juste ce qu'il a fait avec la Zambie, qu'ils ont remporté une Coupe d'Afrique, juste pour ça, sa carrière est faite. Là. Donc, on ne va pas le critiquer non plus. Donc, côté féminin, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, les demi-finales, ça va commencer, je crois que c'est demain. Et puis, ça va être les matchs suivants. Les Allemandes contre les Américaines. Donc, le 6 août. Et je suis tout perdu le 6 juin. Pourquoi je dis 6 juin? C'est le 6 août. les Américaines contre les Allemandes et Brésil contre Espagne également le 6 août 2024. C'est un mardi. Donc voilà, on vous donne un peu plus de détails. On est pressé, on arrête de faire des erreurs. C'est à 15h le coup d'envoi de ce Brésil-Espagne. Ça va être un match alléchant, ça fait que je vous invite à regarder ça. Tout est diffusé gratuitement d'ailleurs sur CBC. Je ne sais pas si Radio-Canada le diffuse, mais j'aime bien la plateforme de CBC, donc j'écoute ça en anglais à part de ça. Et c'est gratuit, puis il y a toutes sortes de sports. C'est intéressant suivre les Jeux Olympiques. Notamment, on a vu d'ailleurs l'Américain Lyles qui a gagné le 100 mètres. C'était lui, de loin, le plus excité, le moins humble avant le coup de fusil du départ du 100 mètres. Et c'est lui qui a gagné, donc il a bien fait, ça l'a motivé. Mais s'il avait perdu, là, il aurait été probablement un peu critiqué parce qu'il était très, très excité, prenait beaucoup de place. Mais félicitations à lui, il a gagné et c'est l'homme le plus rapide au monde, mesdames et messieurs, après Usain Bolt et compagnie. Eh bien là, c'est lui, un Américain. Noah Lyles, l'homme le plus rapide au monde, qui a battu le Jamaïcain là, avec au photo finish, là, c'est presque juste sa tête qui est devant. Fait que c'était très, très, très serré. Et pour le Jamaïcain, c'est dommage, mais c'est Noah Lyles qui remporte cette médaille d'or. Maintenant, chez les hommes, Jeux Olympiques, fait quelques semaines que je parle de nos amis de l'Argentine. Équipe que je critique vivement, et je l'assume. Équipe qui, dans la défaite, a beaucoup de difficultés à perdre humblement. Et dans la victoire, ils ont de la difficulté également à ne pas narguer les adversaires. L'entraîneur des Pays-Bas, les joueurs des Pays-Bas, Mbappé sur l'autobus... Chanson raciste rechantée par Enzo Fernandez. Il se moque de tous les Colombiens. Il se moque de tout le monde. Quand ils gagnent, puis quand ils perdent, ben bizarrement, il y a des fois il y a des petites bagarres générales, comme c'était le cas. France-Argentine, ça se passait vendredi dernier. Et la France, après s'être fait critiquer, après cette fête, je dirais pas humiliée, mais cette fête, après qu'ils se sont fait narguer par les Argentins avec leur chanson raciste, je ne vais pas la répéter ici, eh bien, ils ont répondu de la meilleure des façons avec Jean-Philippe Mateta, français, mesdames et messieurs, 1-0 à la 5e minute de jeu. Et ensuite, ça a été bye-bye les Argentins, malgré un but refusé pour la France qui aurait pu faire 2-0 et puis un bon 12-13 minutes de temps additionnel parce qu'on sait très bien, l'Argentine... C'est vrai qu'il y a des arbitres qui ont peur des Argentins. C'est fascinant. Ça me fascine comment dans un match qui n'a pas 13 minutes d'arrêt de jeu et de temps perdu, qu'on rajoute 13 minutes de temps additionnel pour que les Argentins puissent égaliser. Mais malheureusement pour eux, ils ne l'ont pas fait. Alors ils retournent à la maison avec pas un trophée, avec rien aux Jeux Olympiques. Voilà. Quand Lionel Messi n'est pas là, les choses se passent différemment, comme on dit par chez nous. Et puis, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que je suis écœuré de cette façon d'arbitrer à double standard. C'est inacceptable. Je vais en reparler. Lors de la Coupe 2022 que l'Argentine a gagnée, en recevant 5 pénaltys, donc ça c'est presque un par match, ils n'en ont pas eu contre, je pense contre l'Arabie Saoudite, ils en ont eu un, contre le Mexique, je crois, ils n'en ont pas eu, et peut-être contre l'Australie, mais ils ont un pénalty à tous les matchs, tous, 5 pénaltys. En plus de ça, un arbitrage exécrable, contre les Pays-Bas, alors que Paredes et Messi auraient dû avoir facilement un carton rouge. Paredes, lui qui a décidé de faire une faute qui méritait le jaune. Et après ça, qui frappe le ballon sur le banc des joueurs des Pays-Bas. Du jamais vu. Jamais un joueur n'a fait ça sans avoir de carton rouge. Il y avait déjà un carton jaune pour la faute. Donc voilà. Bref, c'est ceux qui s'intéressent à ça, allez regarder ça. Je ne vais pas redire l'histoire une autre fois. Match contre les Pays-Bas. L'Argentine l'emporte au tir au but. Nargue les joueurs des Pays-Bas en faisant un signe, Notamendi notamment, qui fait un signe avec ses mains sur sa tête pour se moquer de l'entraîneur des Pays-Bas et se moquer des joueurs. Dibu Martinez qui envoie littéralement chier l'entraîneur des Pays-Bas. Ça, c'est un fait, là. Tout ça, c'est sur caméra. Puis des joueurs qui provoquent les Pays-Bas. Qu'est-ce que les Pays-Bas font? Évidemment, ils sont fâchés. Ils répliquent alors qu'ils ont perdu un quart de finale de Coupe du Monde. Et donc, ils vont un peu se chauffer avec les Argentins. Sanction? Aucun carton jaune ni rouge pour aucun joueur argentin. Sanction? Carton rouge pour le joueur des Pays-Bas qui a répliqué. Match Jeux Olympiques France-Argentine qui s'est passé vendredi. Un joueur de la France nargue les Argentins, puisque quand tu te fais cracher dessus en permanence par des commentaires racistes sur Internet avec des gens qui te considèrent pas français parce que tu as une couleur de peau différente, ce que j'appelle des bons vieux racistes, qui sont obsédés par la couleur de peau et qui ont créé une chanson pour critiquer l'équipe de France. Et quand on sait que non seulement c'est des fans et sur les réseaux sociaux, mais il y a des joueurs qui reprennent ça. Je n'ai pas entendu un seul joueur argentin ou entraîneur qui s'est indigné contre cette chanson-là. Ils disent que ça fait partie du folklore, entre guillemets. C'est leur façon de vivre le football. C'est ça qu'ils disent. Donc, bon, le folklore aussi, c'est vrai, on l'a vu. Quand des joueurs brésiliens vont jouer en Argentine et que des abrutis font des signes de singe avec leurs mains. Est-ce que ça, c'est le folklore aussi? C'est-tu comme ça que ça se passe? Moi, j'aimerais bien avoir des réponses à ça. Mais bref. Donc, ce joueur-là qui provoque les Argentins, tous les Argentins clairent le banc, vont sur le terrain, ils veulent se battre. Donc, je n'ai pas vu nécessairement s'il y avait des coups. Je ne vais pas être malhonnête non plus. Mais c'était très certainement une raison pour être sanctionné par au moins un carton jaune pour des joueurs argentins. Et là, dans ce cas-ci, eh bien, c'est le joueur français Enzo Milho qui, lui, a obtenu le carton rouge direct. Et aucun joueur argentin n'a eu un carton jaune pour ça. Donc, c'est quand même intéressant. Ah, peut-être Beltran en a eu un. Right? Et l'entraîneur Mascherano, lui qui les collectionne, là, les cartons jaunes pour un entraîneur quand même, là, c'est assez pathétique. Je pense que c'est son deuxième. Là. Donc, il reste assis à sa place, qu'il fasse ses affaires, puis il va être correct comme ça. Là. Ils ont été très mauvais durant cette compétition-là. Right? Tout simplement, c'est la vérité. Donc, voilà. Et donc, voilà, ce qui est bon pour Pitou n'est pas bon pour Minou, avec les arbitres. Et on le sait, et beaucoup de gens sur les réseaux sociaux le savent, est-ce que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde à cause des arbitres? Non. Ils ont gagné la Coupe du Monde parce qu'ils ont un des meilleurs joueurs de tous les temps qui s'appelle Lionel Messi, mais qui n'est pas le meilleur joueur de tous les temps. Très clairement pas. Maradona, surtout Pelé est dessus. Probablement Maradona également. Mais ils ont été grandement aidés par les arbitres. Et beaucoup de comportements de joueurs argentins, notamment Otamendi, qui a kické deux fois le ballon sur un joueur couché au sol, Pogba en 2018, et sur le Croate Rakitic. Les deux fois, un petit carton jaune, et une fois, je pense qu'il n'y a même pas eu de carton jaune, alors que c'était rouge direct. Voilà. Donc les arbitres, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Je ne sais pas s'il y a des consignes, probablement pas, là. Mais ça ne roule pas. Ça roule pas, puis c'est décevant. Mais ce qui est très plaisant pour moi, c'est que l'équipe qui a le mieux joué entre les deux s'est qualifiée. Et c'est la France, avec des joueurs français, je le répète, à nos amis ignorants et racistes sur les réseaux sociaux, ceux qui partagent ça, évidemment, là. C'est pas tout le monde, mais il y en a beaucoup. Et donc, voilà. Félicitations à la France. Argentine, ben peut-être aux prochains Jeux Olympiques dans 4 ans à Los Angeles. Donc voilà, et Javier Mascherano, ben c'est dommage, mais tu pourras aller chialer sur les lignes de touche la prochaine fois que tu joueras avec l'équipe d'Argentine U20 ou U23. Là, je sais même pas. Je sais même pas t'es rendu. Donc voilà. Petite parenthèse. Il y a des championnats qui ont commencé, des championnats nationaux, et notamment nos amis de Celtic l'ont emporté 4-0 contre Kilmarnock. Et voilà, la Ligue écossaise est lancée. Chers auditeurs, chers auditrices, avec notamment notre Canadien Alistair Johnson qui jouait et qui a joué le match. Donc maintenant, on retourne à nos moutons. C'est une petite pause inutile. Donc dans l'autre match, eh bien l'autre équipe d'Amérique du Sud, le Paraguay, qui s'est fait égaliser à la fin du match, 88e minute, par M. Adel. Et donc, l'Égypte l'a remporté au tir au but. Ils ont marqué leurs 5 tirs au but et Marcelo Pérez l'a raté pour le Paraguay. Donc, ils affronteront la France. Et ça, ça se passe. En fait, ça se passe aujourd'hui, chers auditeurs, chers auditrices. Malheureusement, l'émission qui est préenregistré, et même si elle n'était pas préenregistrée, le premier match est à midi. C'est Maroc-Espagne et à 3h, France-Égypte. Maroc-Espagne, ils sont affrontés en Coupe du Monde 2018, 8e de finale. Et le Maroc l'avait emporté. C'est deux pays qui sont très proches historiquement, puis c'est surtout des pays qui sont très proches géographiquement. Il y a beaucoup d'Espagnols qui vont au Maroc des fois pour leurs vacances. Il y a beaucoup de Marocains qui habite du côté de l'Espagne. Et donc, on espère que ça va être un bon match. Et de l'autre côté, eh bien, il y a également nos amis de l'Espagne qui l'ont emporté. Eux qui sont habitués aux Jeux Olympiques, l'Espagne qui est un très bon pays de foot. Ils l'ont emporté dans leur match de quart de finale, eux également, contre le Japon, avec des buts de Lopez et Ruiz. Et bien entendu, Fermín López, lui, c'est le numéro 1. Ce qui appartient à qui? Le numéro 11 du FC Barcelone, on le sait, le FC Barcelone, qui est une institution pour former des joueurs. C'est de là que vient un certain Messi, Xavi, Piqué, Puyol, bref. Cette équipe-là, que je ne supporte pas, mais qu'il faut le dire, peut-être ça a été la meilleure équipe de tous les temps en termes de jeu sous l'ère de Pep Guardiola, un homme également qui est un très bon entraîneur, mais je préfère Mourinho dans la personnalité et dans ses relations avec les joueurs. Donc voilà le plan de match pour nos équipes olympiques. Maintenant, pour ce qui est de l'Alliance de Montréal, eh bien l'Alliance de Montréal, ça va se passer vendredi prochain, dans quelques jours. Ils vont jouer leur match, leur demi-finale, pour essayer peut-être de se qualifier pour une finale. Ils vont affronter les Niagara River Lions, c'est vendredi soir à 8h PM, Auditorium de Verdun. Il y avait des billets la dernière fois que j'ai regardé, ils sont à peu près à une trentaine de dollars, donc vous n'aurez jamais un spectacle et du talent comme ça pour ce prix-là. Et dans l'autre demi-finale, eh bien, ça sera les Vancouver Bandits qui sont la meilleure équipe de la Ligue avec les Niagara River Lions qui vont jouer contre le Calgary Surge qui ont battu les Edmonton Stingers 78-69. C'est quand même une surprise parce que Edmonton avait la meilleure fiche là après Vancouver avec 13 victoires, 7 défaites. Et les Ottawa Blackjacks, eh bien, eux, ils ont perdu 91-94 contre les Niagara River Lions. Donc ça a été chaud là, pour nos amis de Niagara avec les Lions de la Rivière. Donc voilà, chers auditeurs, chers auditrices, c'est ce qui met fin à cette émission du terrain sportif. C'était Wissam Bensta au micro pour CSM. On se revoit à 10h30 lundi prochain sur cette même radio, le 89,3 FM, et le soir, lundi soir prochain, 20h, 21h30 sur les ondes de CFAC, le 89,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Encore une fois, félicitations à l'équipe de France masculine olympique de s'être qualifiée pour les demi-finales des Jeux olympiques. Ça fait du bien, on aime ça, sans aide de l'arbitre, juste du beau soccer comme on l'aime. Et félicitations encore une fois à Léon Marchand qui a remporté 4 médailles d'or, le nageur français, qui n'est pas relié, bien entendu, à Brad Marchand, joueur des Boston Bruins. Voilà, à la prochaine et bonne semaine.